On a abondamment salué, et avec raison, la décision de Justin Trudeau de constituer un cabinet paritaire, donc qui compte autant de femmes que d'hommes chez ses ministres. On a aussi beaucoup parlé durant l'élection et après l'élection du fait que les femmes étaient peu nombreuses à se lancer en politique. Mais il y a un autre domaine où elles sont peu nombreuses à oser se lancer, et c'est dans le domaine des affaires. On en parle un peu moins, mais c'est quand même important. Au Canada, moins de 20 % des PME appartiennent en majorité à des femmes. Et non, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la bosse des affaires naturellement, parce que ce sont des filles. Merci de ne pas nous envoyer ce commentaire. Il y a des obstacles bien réels à cette triste statistique. Est-ce que le monde des entrepreneurs est un boys club? C'est le sujet de la discussion de cette balado châtelaine. Alors, bienvenue à la balado châtelaine, la version audio et artisanale de votre magazine. J'ai plusieurs collaboratrices avec moi autour de la table aujourd'hui, dont deux nouvelles. Annabelle Moreau, notre gestionnaire des réseaux sociaux, bonjour.
Bonjour.
Annabelle, tu quittes le numérique pour venir nous parler de livres papier aujourd'hui.
Oui, je veux partir de deux phénomènes qui ont été très importants sur le web et qui maintenant sont devenus des publications. Donc, à découvrir.
OK, on entend ça un peu plus tard à l'émission. Florence, une collaboratrice, Florence Wells, recherchiste mode du magazine Loulou, qui appartient, je dois le mentionner, à Rogers tout comme l'actualité et Châtelaine. Alors, tu es descendue de ton 16e étage pour venir nous parler d'un sport assez inusité que tu as testé.
J'ai eu la chance d'essayer un cours de natation spéciale. Je vais vous raconter ce que la sensation d'enfiler une queue de sirène et d'essayer de nager.
J'ai plein de choses à dire à propos de ça. J'ai vraiment très hâte. Martina Jogour, rédactrice en chef numérique, bonjour.
Bonjour, Christelle.
Qu'est-ce qu'on a au menu de On mijote l'actu?
Alors, On mijote l'actu, aujourd'hui, on parle de ce qui est vrai et ce qui est faux sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus difficile à dire, comme on va le voir avec l'histoire troublante dont on va se parler aujourd'hui.
Excellent. Je vous rappelle qu'on a un segment culturel un peu plus tard où Mylène Tremblay nous parlera d'un film qui l'a beaucoup troublé, ému et qui est un peu plus d'actualité. Mais d'abord, je m'entretiens avec Noémie Mercier, journaliste à l'actualité. Bonjour Noémie.
Bonjour Christelle.
Alors je dois dire, Noémie, qu'en plus d'être notre voisine de palier, dans la vie tu écris pour l'actualité.
Effectivement.
Et tu signes entre autres une chronique que j'adore, « Des gars, des filles », où, oui, tu me corriges si je me trompe, mais tu mets en fait en lumière des divergences qui demeurent assez importantes entre la réalité des gars et des filles, d'où le nom de la chronique.
Entre autres.
Entre autres.
Oui.
Et dans ta prochaine chronique qui apparaît, tu parles de ce phénomène dont je parlais en introduction, le fait que les femmes sont encore très peu nombreuses à se lancer dans le monde des affaires.
Absolument.
Mais on doit dire que ce sujet-là, quand même, t'es venu dans un contexte particulier.
Oui, tout à fait. Depuis une vingtaine d'années maintenant, le magazine Actualité publie le palmarès des leaders de la croissance. Donc, c'est un palmarès qui est réalisé en collaboration avec le magazine Profit, qui est aussi propriété de Rogers. Et c'est un palmarès des 20 entreprises québécoises qui connaissent le plus fort taux de croissance depuis les 5 dernières années. Donc, c'est un critère qui est purement objectif. On regarde dans leurs états financiers, leur taux de croissance de leurs revenus, lesquels ont les plus forts taux depuis 5 ans. Et voilà, ça donne notre palmarès.
D'accord.
Et année après année, le problème qu'on a avec ce palmarès-là, c'est qu'il est composé presque exclusivement d'hommes. Et cette année, 19 des 20 entrepreneurs qui se sont retrouvés dans notre classement étaient des hommes.
Aïe, aïe.
Et on se l'est fait dire. Donc, bien sûr, nous, on le remarque à l'interne.
Oui, bien sûr.
Mais ce qui a été particulier cette année, c'est qu'on se l'est aussi fait dire par nos lecteurs et par un observatoire sur Internet qui s'appelle Décider entre hommes. Puis Décider entre hommes, moi, je les suis, je les adore, je les trouve hilarants. Donc, c'était d'autant plus savoureux de se faire épingler par eux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils répertorient sur leurs réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter, toutes sortes d'exemples de lieux de pouvoir ou de sphères d'influence où les femmes sont presque invisibles ou totalement inexistantes. Et donc, en octobre dernier, j'ai vu apparaître sur Décider entre hommes une capture d'écran de notre page à l'actualité, notre page web où on avait rassemblé les photos de tous nos leaders de la croissance. Et vraiment, l'effet était saisissant. ans.
De voir les 19.
De voir la seule femme sur toutes ces photos d'hommes blancs en cravate. Mm-hmm. J'ai rougi.
Mais c'est quand même révélateur de la réalité, là. C'est parce que c'est ça aussi. C'est peut-être pas à 95%, mais je prenais une statistique justement qui est évoquée dans ta chronique. Il y a encore très peu de femmes entrepreneurs.
Exactement.
Parce qu'il y a des obstacles bien réels.
Il y a des obstacles bien réels. C'est sûr qu'il y a une réalité historique aussi.
Oui.
Quand on pense, par exemple, au fait que ça a pris jusqu'aux années 60 au Québec pour qu'une femme mariée ait le droit de contracter un prêt à son nom. Et jusqu'en 1973... Ce n'est qu'en 1973 qu'une femme mariée a pu prendre une hypothèque à son nom. Donc, la relation des femmes à l'argent, cette relation plus...
Très récente encore.
Oui, plus délicate, plus fragile, plus épineuse, c'est une raison historique derrière ça. En ce qui concerne les femmes entrepreneurs, il y a ce déficit dans l'imaginaire, je dirais.
Oui, parce qu'il n'y a pas de modèle.
Il n'y a pas de modèle dû à ces raisons historiques. Il y a très peu de mentors, il y a très peu les réseaux. Ils ont plus difficilement accès aux réseaux d'entraide. Mais il y a aussi une plus grande difficulté d'accès aux crédit, ce qui est évidemment essentiel quand on veut...
À la base, c'est ça.
Quand on veut faire croire
accès au fond.
Son entreprise. Et ça, il y a plusieurs rapports, plusieurs études qui le montrent. Par exemple, si je peux vous citer un portrait de l'entrepreneuriat féminin qui a été publié en 2010 par Industrie Canada. Et eux, nous apprennent que les femmes chefs d'entreprise, effectivement, se voient plus souvent refuser un prêt que les hommes chefs d'entreprise. Donc, pour prendre, par exemple, les demandes de financement par carte de crédit ou marge de crédit, en 2007, le taux d'approbation pour les PME qui appartiennent à des femmes était de 77 % et le taux d'approbation pour les PME appartenant à des hommes était de 94 %.
Mais voyons donc.
Oui. Puis, on leur demande aussi aux femmes de fournir une documentation plus complète et les sommes qu'elles obtiennent en prêt sont beaucoup plus modestes. Donc, les femmes propriétaires de PME, c'est-à-dire que le montant moyen du prêt accordé aux PME des femmes est deux fois et demi plus petit que le prêt moyen accordé aux PME des hommes.
Puis quand on comprend et qu'on sait à quel point les PME doivent déjà conjuguer avec des ressources quand même assez minces, c'est déjà leur premier défi. Donc, on ajoute une difficulté supplémentaire en tant que femme entrepreneur.
Tout à fait.
Est-ce qu'on sait pourquoi il y a cette différence-là? Est-ce qu'elles sont moins bien préparées? Comment on l'explique exactement?
Bien, c'est d'abord lié au type d'entreprise.
Ah oui?
Donc, il y a des raisons purement structurelles. C'est-à-dire qu'en général, les PME qui appartiennent à des femmes sont plus petites.
Mm-hmm.
Donc, bien sûr, si vous avez une petite entreprise, le montant de l'emprunt qu'on va vous accorder ou que vous allez même demander va être plus petit. Donc, il y a ça. Elles sont concentrées aussi dans des secteurs à plus haut risque. Et vous allez voir que ça ressemble drôlement au secteur traditionnellement féminin. Donc, elles sont concentrées davantage, les PME des femmes, dans le commerce de gros et de détail, dans les services professionnels, les soins de santé, les arts et le divertissement, le tourisme, l'hébergement et l'alimentation.
Ah oui.
Donc, ce sont des secteurs à haut risque qui ont des potentiels de croissance plus faibles aussi. Donc, ça, c'est une partie de la réponse à la question pourquoi les institutions financières sont pingres à l'égard des femmes. Donc, des raisons structurelles.
Mm-hmm.
Mais,
bien sûr.
Car il y a un mais, il y a aussi de la discrimination pure et simple, du simple fait que les femmes.
Ce qu'on aurait aimé ne pas entendre, mais que tu nous confirmes.
Exactement.
Quand même.
Donc, un autre domaine où il y a de la discrimination qui est souvent inconsciente, mais du simple fait qu'on a une femme en face de nous, on la prend moins au sérieux, on la trouve moins crédible.
C'est un problème de perception, donc. Beaucoup.
Qui sait? Il y a plusieurs travaux universitaires qui tendent à démontrer ça, notamment dans le domaine des start-up aux États-Unis et ici. Il y a des chercheuses de la Harvard Business School qui ont publié une étude très révélatrice à ce sujet-là l'année dernière.
C'est là qu'on déprime.
Je vous le dis tout de suite. Donc, ce qu'elles ont fait, les chercheuses, c'est qu'elles ont créé une fausse vidéo d'une présentation d'affaires, une fausse vidéo de pitch, où on voyait défiler des images reliées à la proposition d'affaires. Et alors qu'on entendait la voix, l'entrepreneur narrer ou décrire
expliquer
son projet
en
voix hors champ. Mais on ne voyait pas l'entrepreneur. Okay? Et tous les participants, tous les sujets de l'expérience ont vu la même vidéo de pitch d'affaires à un détail près. Il y a certes une moitié des participants qui ont vu la vidéo narrée par une voix d'homme et il y a l'autre moitié des participants qui ont vu exactement la même vidéo, les mêmes images, le même texte, mais narrée par une voix de femme. Puis ensuite, on leur demandait sur une échelle de 1 à 7, est-ce que jusqu'à quel point vous êtes intéressé, vous seriez intéressé à investir dans une telle, dans un tel projet d'entreprise et puis qu'est-ce que vous avez pensé de la proposition? Eh bien, Je vous laisse deviner, mais vous me voyez venir. Les sujets étaient beaucoup plus intéressés à investir dans le projet s'ils l'avaient entendu présenté par une voix d'homme que par une voix de femme. Et aussi, ils trouvaient que la présentation était plus persuasive, plus factuelle et plus logique si c'est un homme qui l'avait livré que si c'était une femme. Puis ça, c'est pas forcément que les gens sont de mauvaise foi ou qu'ils sont ouvertement sexistes, mais il y a une vision très, très profondément ancrée en nous.
Oui, bien sûr. Inconsciemment, parfois, comme tu disais. Et chez les hommes et les femmes, parce que, évidemment, les classes qui avaient analysé ou même les gens qui avaient analysé ces cas-là, il y a des femmes parmi ces gens-là.
Effectivement.
Donc, c'est pas une question de... Il y a un autre point qu'il faut quand même mentionner quand on parle de femmes entrepreneurs, c'est quand même la fameuse conciliation travail-famille. C'est un autre obstacle quand même.
Absolument. L'entrepreneuriat, créer sa propre entreprise, c'est aussi un moyen puissant pour les femmes de créer un milieu, un monde du travail puis un milieu des affaires à leur image. Et d'ailleurs, dans notre fameux palmarès des leaders, la femme qui est arrivée en 22e position,
qui a failli se glisser
dans notre top 20, elle s'appelle Pascale Pajot, c'est une avocate, et elle avait de grandes ambitions, c'est une avocate, elle se disait elle-même carriériste, etc. Puis quand elle a eu son premier enfant, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus capable d'assurer à la fois sa carrière d'avocate et de ses responsabilités familiales. Et elle a fondé sa propre entreprise justement pour se donner des outils de conciliation travail-famille qu'elle offre aussi à ses employés. Et cette femme-là se retrouve au 22e rang de palmarès des entreprises qui connaissent la plus forte croissance. Donc, c'est possible.
Exactement.
Mais c'est ça, c'est aussi de changer cette image-là qu'on a de l'entrepreneur qui est un homme en cravate, puis de se dire, mais c'est un moyen,
c'est un levier pour changer la structure.
Oui, changer la société.
Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup, Noémie. Donc, ta chronique est à paraître dans le numéro de l'actualité qui sera en kiosque
Le 18 novembre.
18 novembre.
Oui.
En attendant, par contre, j'invite tout le monde à aller lire tes chroniques des gars des filles sur le site web de l'actualité. C'est sous l'onglet Opinion. Il y a des sujets-là absolument fascinant, un peu déprimant parfois, je dois l'avouer, mais très important. Entre autres, ta dernière chronique, Le sexe ne fait pas vendre. Juste ça, je pense qu'on va être nombreux à aller la lire.
Le sexe ne fait pas vendre.
Très intéressant. On se le tienne pour dit. Vraiment. Et tu as parlé aussi de ce mythe à l'effet que les filles n'auraient pas la bosse des maths. Comment se fait-il? Et plein de sujets.
Oui.
On pourra en parler longuement d'ailleurs. On
compte bien te réinviter.
Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Noémie.
Je t'en prie, Christelle.
On vient d'entendre un extrait d'une pièce de Félix Diotte. Qui est Félix Diotte? Je l'ignore totalement, mais Mathieu Charlebois va venir nous éclairer avec ses connaissances musicales un peu plus tard. Mais d'abord, je parle à Annabelle Moreau. Bonjour Annabelle. T'es gestionnaire des réseaux sociaux à Châtelaine.
Oui.
D'ailleurs, tu fais un excellent travail,
merci,
je dois te le dire.
Merci,
on est tellement
c'est
bon.
Un plaisir.
Et tu viens nous parler, par contre, d'un livre maintenant, mais il y a un lien avec le numérique.
Avec
il a été publié par deux blogueuses qui ont beaucoup de succès sur le web.
Oui, oui, oui. En fait, c'est les filles qui sont derrière le blog Ton Petit Look. Leur blog est né en 2010. On les appelle maintenant, depuis 2010, on les a surnommées les jumelles de la mode. Donc, c'est Caroline et Josiane Stratis. Mm-hmm. Elles ont 29 ans. Donc, sur leur blog, on trouve surtout des conseils mode et beauté, mais elles traitent aussi de sujets qui sont assez importants, assez intéressants, des choses qu'on aime beaucoup à Châtelaine. Donc, elles vont traiter, par exemple, de santé mentale,
oui, c'est vrai.
De diversité corporelle, d'acceptation de soi. Et elles le font toujours avec un ton très humoristique, plein d'autodérision, qui est très, très web, qui s'adresse aux jeunes femmes modernes. Donc, cette semaine, elles ont publié un livre qui s'intitule « Bon, ton petit look », un guide pour une vie adulte genre épanouie.
Genre est vraiment
genre
sur la
est entre parenthèses et ça correspond vraiment.
Ben, on reconnaît le ton des blogueuses.
Oui,
qu'est-ce qu'on trouve dans ce fameux guide de l'adulte épanouie?
Oui, donc dans ce hashtag ton petit livre, parce qu'il y a vraiment un mot-clé qui a été créé pour ça, ce livre-là veut vraiment répondre à la question comment devient-on un adulte ou une adulte épanouie? Au début, effectivement, j'étais un peu sceptique parce que, bon, je me sens déjà comme une adulte, j'ai 32 ans, mais il y a quand même ma curiosité, la jeune femme en moi qui a été attirée par l'adjectif épanouie.
Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on y répond? De quoi ça traite exactement?
Oui. Je voudrais peut-être vous lire juste un tout petit extrait de l'intro.
Voilà, ça va donner le ton.
Vraiment donner le ton. Donc, c'est les deux jumelles qui écrivent au début. Donc, on a pensé bien humblement que si on avait eu ça entre les mains il y a quelques années, la ride aurait été pas mal moins rough. Parce qu'à la base, même si c'est normal de se haïr, apprendre à s'aimer, c'est quand même compliqué. Donc, okay. Ce qu'on retrouve là-dedans, c'est 13 chapitres qui ratissent assez large. Mais l'objectif, c'est vraiment pour se sentir bien dans sa peau. Donc, encore, acceptation de soi, acceptation de son corps. Mais aussi, on aborde plein de choses comme comment pas devenir une victime de la mode, comment partir de chez ses parents, comment faire un budget. C'est des choses très importantes.
Oui. Peut-être moins à 29, mais c'est vrai que s'ils sont encore là. Mais c'est leur riche expérience qu'elles partagent.
Mais moi, je pense que ça s'adresse plus peut-être pour des adolescentes ou des jeunes femmes qui, maintenant, on part de plus en plus tard aussi de chez ses parents. Oui. Donc, on va même parler de cuisine. Et puis, évidemment, elles restent dans le ton de leur blog. Elles vont aborder des sujets moins évidents, mais que je trouve très essentiels, comme la santé mentale, la dépression, le viol et aussi le phénomène des médias sociaux. Donc, on va parler beaucoup de body shaming ou comment réagir à des critiques négatives. Et il y a un chapitre très savoureux sur le sexe. Donc, on va parler de masturbation, de bisexualité, est-ce que c'est le grand amour, est-ce que c'est une dette. Tout ça est fait vraiment avec beaucoup encore de d'autodérision et il y a des témoignages qui sont très touchants de plusieurs de leurs collaboratrices parce qu'il n'y a pas seulement les jumelles qui écrivent, mais aussi des collaboratrices.
Mais, donc, toi, tu apprécies, je comprends bien, là, au-delà du fait que tu te sens juste 10 ans trop vieille, mais à part ça.
À peine 10 ans trop vieille. Oui. J'ai trouvé que c'était très rafraîchissant, très audacieux. Okay. Les témoignages sont très touchants, sont bien écrits. Peut-être que si en ce moment j'avais une adolescente, que j'avais une fille, c'est sûr que je lui donnerais ce livre-là parce que ça rassemble plein de choses très intéressantes.
Est-ce que c'est bien écrit?
Oui, c'est très bien écrit, franchement. Puis c'est sûr que le ton du blog est encore là. Il y a le genre. Mais c'est très bien fait, c'est très le fun, puis c'est très encore dans l'autodérision, donc c'est savoureux.
Bon, on salue quand même l'idée parce qu'on ne parlera jamais trop de diversité corporelle, d'acceptation, donc c'est
quand
même.
Moi, je suis curieuse, Annabelle, quand tu dis qu'elle parle de viol, tu sais, ça semble un livre tellement ludique puis tellement léger. Donc là, tu dis qu'elle parle de viol. Mm-hmm. Comment ça s'inscrit à travers tout ça?
Bien, en fait, elles utilisent un peu leur ton, leur personnalité pour aborder des sujets qui sont un peu difficiles, puis les rendre moins difficiles un peu.
Est-ce qu'elle les banalise ou...
Non, pas du tout. Okay. En fait, ce que ça fait, c'est que ça permet une discussion, ça permet l'ouverture sur ces sujets-là, puis surtout les filles peut-être auxquelles ça leur est arrivé.
Oui. Ou,
De vraiment ouvrir les frontières puis d'être capable de pouvoir en parler, de pouvoir s'ouvrir aux autres par rapport à ça. Ah. Donc, moi, je trouve que dans ce sens-là, c'est
intéressant, mais ils ont déjà une communauté aussi, quand même, qui les suit.
Qui est très puissante, qui est très forte.
Oui, c'est ça, ils sont très populaires.
Puis qui est beaucoup dans le témoignage aussi, dans le partage.
Ça s'inscrit bien là-dedans.
Tout à fait.
OK. Et justement, cette idée de passer du blog au livre, là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Hein?
Oui, bien, au Québec, on a surtout à penser à Marie-Lou, qui est vraiment belle sur notre...
Par ailleurs, elle est sur la couverture de Châtelaine.
Elle est sur la couverture de Châtelaine du mois de décembre. Mais j'avais aussi envie de vous parler du livre de Geneviève Petersen, Vie et mort du couple.
Personne qui a connu beaucoup de succès avec un blog à la base.
Oui, qui s'appelait Madame Chose. Oui. Donc, Geneviève Petersen, qui est aussi chroniqueuse à Châtelaine.
Par ailleurs.
s'est fait connaître comme Madame Chose. Donc, elle a tenu ce blog-là pour les jeunes femmes modernes pendant plusieurs années. Elle a aussi eu un courrier du cœur dans la presse pendant une année, je crois. Puis l'année dernière, elle publiait son livre, donc Vie et mort du couple, du dating ou divorce, où elle abordait vraiment de front la vie à deux, donc des premiers émois, est-ce qu'on s'aime, est-ce que c'est le bon? Mais elle parlait beaucoup aussi de grossesse, d'infidélité, de sexe après les enfants, de comment survivre aux rénovations. Mm-hmm. Et elle finissait tout ça par le divorce. En plus de donner des recettes, des trucs de son cru, il y a une très belle recette du filtre d'amour pour garder son homme auprès de soi. Donc,
dans ce livre-là de Geneviève Peterson, c'est vraiment les anecdotes qui sont savoureuses.
Oui. Et les personnages.
Et les personnages. Il y a Délicieux Marie qui a fait son apparition.
Marie, très bon, oui.
Donc, c'est très intéressant. Ça se lit comme un roman oui. et c'est très savoureux et plein d'autodérision encore.
Mais donc, en fait, ça nous fait deux livres
oui.
qui s'adressent à la jeune femme moderne
oui.
avec tous ces guillemets, et, mais qui ont en commun quand même d'utiliser l'ironie
oui,
et un ton direct pour quand même parler des préoccupations qui sont bien réelles.
Oui, aborder des sujets qui sont plus complexes, mais de les prendre par un autre côté pour avoir aussi du plaisir à en parler puis être capable d'en parler avec les autres.
Ouais, excellent. On va mettre les références de toute façon sur la page de la balado pour celles qui aimeraient en savoir plus. Merci Annabelle.
Merci Christelle.
Je me tourne lentement mais sûrement vers Florence Wells, recherchiste mode à Loulou. Bonjour Florence.
Bonjour Christelle.
Écoute, la table est vraiment suspendue à tes lèvres depuis qu'on sait que tu as testé un sport que j'aimais dans la catégorie « On avait-tu besoin de ça? » L'aquasirène. Mais avant d'aller plus loin, je veux qu'on se mette dans l'ambiance.
Sous l'océan, doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan.
Alors, je me sens totalement aquatique, un peu plus, puis je mets un haut de maillot à paillettes pour t'entendre, Florence, nous raconter ton expérience d'aquasirène. Mais avant tout, il faut quand même dire que ça s'inscrit là, dans une tendance. Il y a réellement un engouement pour la sirène chez des gens qui ont passé 4 ans et demi, il faut le préciser, surtout aux États-Unis.
Ça a commencé à faire fureur aux États-Unis le jour où Kim Kardashian a amené sa fille faire un cours d'aquasirène pour enfants.
Oui, ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça. Ensuite, ça en est suivi de la fille de Gwyneth Paltrow. Bref,
mon Dieu, okay.
N'en prenait pas
il
plus.
Il n'en fait pas, c'est ça.
N'en prenait pas plus pour que Instagram s'enflamme.
Mais là, pour notre plus grand plaisir, point d'interrogation, il y a des cours offerts au Québec maintenant, parce que toi, tu as fait ton cours d'aquasirène à Montréal.
Oui, exactement. C'est la même école qui a 3 adresses à Montréal.
Okay.
Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école qui est située dans Côte-des-Neiges,
okay.
au Collège Notre-Dame.
Et bon, concrètement,
là,
ça a l'air de quoi, un cours d'aquasirène? Tu fais quoi, là?
En fait, j'étais très apeurée. Pas apeurée par le niveau sportif de l'activité, mais plutôt pour comment devrais-je réagir face à tout ça. Puis en arrivant, finalement, j'en ai eu pour mon argent, comme on dit. Parce que la première étape du cours de sirène consiste à choisir sa queue.
Ah, OK, c'est important, ça.
Exactement.
N'enfile pas n'importe quelle queue, là.
Oh non, non. Choisis okay. celle qui s'agencera parfaitement à ton haut de maillot ainsi qu'à ton manicure. Alors, pour continuer, bon.
Donc, bref,
c'est fait en quoi? C'est quoi exactement comme queue, comme
ouais.
matériel?
Alors, c'est vraiment comme une immense gaine, je dirais.
OK.
Fait en principalement de probablement nylon et spandex. Comme un maillot de bain. Par contre, c'est recouvert de la paillette de la couleur de ton choix. Puis, à la fin de la queue, il y a une palme.
Ah, ben, c'est pas négligeable comme
détail. Qui de ne pas couler dans l'eau.
Mais qui nécessite quand même de te faire aller le pied allègrement si tu veux pas couler, là.
Oui, oui, oui. C'est d'où le « je n'aurais pas dû jamais ne sous-estimer un sport
». Peu importe ce qu'il est.
Exactement.
Ah ouais, hein.
Puisque le matin même, moi, convaincue que ça allait être une activité et non pas un sport, j'ai couru mon 10 km habituel.
Avant
je
de...
me suis donc présentée à la piscine pré-raqué, disons.
Ah oui, je comprends. Mais d'ailleurs, juste enfiler la chose, ça doit pas être une mince affaire. Là.
Surtout, bon, on le voit pas à la radio, mais je suis une très grande personne de 1,84 m.
Mm-hmm.
Donc, le modèle pour femme ne me faisait pas. Donc, j'ai dû me tourner vers la collection pour hommes.
Quoi, c'est parce qu'il y a une collection pour hommes et tu sais, des sirènes, c'est quoi ça?
Je te corrige tout de suite. On ne dit pas des sirènes, ce sont des tritons.
Ah d'accord, excuse-moi.
Est-ce qu'ils ont des paillettes?
Oui. Mais beaucoup moins flamboyante, à ma grande déception, que celle pour femme.
Et donc, tu t'es retrouvée avec une queue de second choix pour
exactement.
T'initier à la sirène. Bon, une fois la chose installée, de qu'est-ce qu'on fait?
La première chose que m'a appris ma professeure, qui se surnomme Ariel.
C'est un hasard ou c'est un nom d'artiste? Ou
C'est le nom, en fait, de la princesse de Disney.
Oui, je sais ça, mais dans son cas, c'est...
D'après moi, c'est un nom d'artiste.
Oui, hein.
Oui. Parce qu'il faut savoir que les gens qui sont fanatiques, je vais le dire ainsi, de cours d'aquasirène sont plutôt intenses, pour rester poli.
D'accord. Donc, est-ce que tu étais entourée de fanatiques? Parce que, ou c'était des gens comme toi, donc c'était la première fois?
Alors, je peux maintenant considérer que mon groupe était parfait.
Okay. Vous étiez combien dans le groupe?
4.
OK, c'est un petit groupe, ce cours.
Exactement. Okay.
Et bon, j'en reviens à ma question, qu'est-ce qu'on fait concrètement comme exercice, parce que c'est quand même aquasirène, il doit y avoir quelque chose de cardio là-dedans. Là.
Sérieusement, le niveau de complexité, il faut savoir nager.
OK.
Absolument, il faut être à l'aise dans l'eau, parce que à ma grande surprise, ça a été, je dirais pas difficile, mais complexe. Nager boudiné, mm-hmm. d'accord, c'est vraiment pas si évident.
La palme,
moi je suis habituée, j'ai fait la plongée, j'ai joué au water polo, je suis une bonne nageuse, mais sincèrement, j'ai été étonnée. Le niveau de difficulté s'ajoute à notre jeune professeur qui nous rappelait à tout instant de garder le sourire, telle une charmante sirène.
Ah, donc il faut nager en souriant?
En souriant avec élégance et grâce.
Est-ce qu'il faut battre tout le temps de la queue? Ou?
Tout le temps, constamment.
T'as les deux pieds dans une palme, là. C'est une monopalme.
Oui, exactement. On se retrouve unijambe, en fait. Alors,
un autre facteur de difficulté.
On a un nouveau respect pour Darren Anna, hein,
quand
qui
même,
joue dans Splash.
J'admets.
Absolument. Moi, c'est exactement... honnêtement, c'est à elle. J'ai pensé en premier. Je me suis dit, pauvre femme qui a dû subir un tournage aussi long. Parce que juste de se redresser, parce que vous savez, une sirène, ce qui est important, c'est qu'on voit son tronc et sa queue à la fois. Les deux parties sorties
de l'eau. Il faut être cambré, alors.
Exactement, ouais. Très cambré. Les abdominaux, je vous le dis, ça a pris vraiment plusieurs journées avant que je m'en remette.
Ah, bon, mais ça peut être un bon entraînement. Là.
Ça peut être un excellent entraînement.
Okay. Pour qui a envie de se prêter au jeu de la sirène. Par contre, il faut quand même savoir que notre vie de sirène ne s'arrête pas nécessairement à la fin du cours en sortant de la piscine, parce que toi, tu es désormais dans la communauté des sirènes, là.
Oui. J'ai décidé à la fin du cours de mettre une photo sur mon Instagram personnel. On en a mis une aussi sur l'Instagram du magazine Loulou. Par contre, moi, avec le hashtag Mermaids, je me suis attirée une foule de nouveaux followers dont j'ignorais l'existence. J'ai maintenant beaucoup d'admirateurs à travers le monde, dont la plupart... J'ai essayé de comprendre un petit peu. Il y a aussi une grande communauté en Allemagne.
Ah, donc la sirène n'est pas pire.
Des hommes.
Qui recherchent une espèce de fétichisme
de la sirène.
Exactement.
Est-ce qu'ils se qualifient de tritons?
J'ai des tritons maintenant qui me suivent. Et leurs comptes Instagram sont fabuleux. Ce sont des garçons qui se posent en queue de sirène dans leur baignoire. Et ils se font des soirées de...
De sirène. De tritons. Excusez-moi.
Alors, il n'y a pas de souci.
Parfait. Ah, on pourra en parler pendant des heures. Malheureusement, je dois t'arrêter là, Florence. Mais écoute, ce n'est que partie remise. J'espère que tu viendras nous reparler d'un sport inusité de cette trempe. Et j'ai Mathieu qui roule vers nous subtilement, qui a délaissé sa console pour venir nous parler parce qu'il veut absolument être à la table. Allô, Mathieu. On va maintenant passer à la chronique « On mijote l'actu ». Une chance qu'on avait un extrait musical pour pouvoir continuer à parler de sirène. On va maintenant vraiment se concentrer sur Martina Jogour, rédactrice en chef numérique à la chronique « On mijote l'actu ». Bonjour Martina.
Bonjour Christelle.
Donc, dans ta chronique, tu nous proposes, et tu le fais toutes les semaines sur notre site web, tu nous proposes une nouvelle virale et une recette pour mieux la digérer. Mm-hmm. Et là, tu as quand même, souvent, on a des choses très humoristiques et très ludiques, mais c'est assez sérieux cette fois-ci. Tu nous parles d'une star des réseaux sociaux. On est nombreux, je pense, à avoir vu passer ça sur nos pages Facebook et nos comptes Twitter. Elle a carrément fait une annonce assez particulière cette semaine.
Oui, exactement. Elle s'appelle Essena O'Neill, cette jeune Australienne. Et puis, elle a décidé lundi dernier de tout quitter. Elle a décidé de fermer ses comptes réseaux sociaux et de dénoncer la vacuité, en fait, des réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire que, je rappelle un peu les faits, il y a une semaine, Essena O'Neill avait tout. Et partout, j'entends surtout une taille de guêpe et 600 000 abonnés sur Instagram.
Ah, quand même.
Oui, son compte...
Elle vivait de ça, en fait.
Elle vivait de ça, en fait, parce qu'elle elle avait beaucoup de commanditaires qui la payaient pour porter leurs produits ou pour parler de leurs produits. Et elle mettait sans cesse des photos d'elle-même sur des plages. Ça ressemblait à une version maison de Sports Illustrated. Donc, c'était vraiment une fille blonde, les cheveux toujours parfaitement décoiffés sur une plage australienne, balayée par les vents, la peau bronzée par le soleil, la taille de Gab, blablabla. Donc, disons qu'à chaque fois qu'elle publiait une photo sur Instagram, elle avait à peu près 23 000 likes. Donc, vraiment, ça fonctionnait son affaire. Elle était très, très suivie. Mais lundi dernier, elle a mis en ligne une vidéo où elle fait un peu voler ce monde-là en éclats. Elle dénonce, par exemple, pendant 17 minutes en pleurant. Elle est très émotive pendant cette vidéo-là. Elle est face caméra, elle n'est pas maquillée. Elle est vraiment au naturel. Puis elle dénonce pendant de longues minutes la dictature des apparences sur les réseaux sociaux. Elle dit, par exemple, qu'elle s'est laissée définir par des chiffres. Et je vous invite à écouter maintenant un petit montage d'extrait de sa vidéo.
« I had the dream life. To a lot of people, I made it. Everything I did was for views, for likes, for followers. I did shoots for like hours just to get photos for Instagram. I had it all and I was miserable because when you let yourself be defined by numbers, you let yourself be defined by something that is not pure, that is not real. You can go outside and meet people and feel connected. You don't need to be... You don't need to prove your value on social media. »
Donc, en fait, elle dit, par exemple, qu'elle a laissé son estime de soi être définie par le nombre de likes qu'elle accumulait, puis qu'elle distinguait plus, en résumé, le vrai du faux, ce qui était la réalité et ce qui ne l'était pas.
C'est difficile de ne pas être un peu cynique quand on entend quand même un tel témoignage, parce qu'on se dit, je ne sais pas ce qu'elle pensait ou qu'elle créerait en passant sa vie à mettre en scène une vie qui n'existe pas. T'sais, évidemment... C'est normal qu'elle ait senti la vacuité de la chose à un moment donné. Mais au-delà de sa propre souffrance, qui semble bien réelle, on ne remettra pas ça en question, qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça, avec ce témoignage-là?
Bien, en fait, elle plaide pour un retour à plus d'authenticité. Elle dit qu'elle n'est pas contre les réseaux sociaux en général, mais elle est contre la pression, la perfection qui les accompagne, parce qu'on est un peu trop porté à filtrer nos vies en mettant tout ça sur Instagram. Puis on est porté à se comparer les uns aux autres et à imaginer que la vie des autres est toujours parfaite. Donc, elle, quand on regardait, par exemple, défiler son compte Instagram, bien, on voyait pas ce qu'il y avait derrière. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle a réécrit les légendes de certaines de ses photos en disant, par exemple, ce jour-là où vous me voyez, genre, super belle sur la plage, en bikini, deux pièces, très échancrée, bien, j'avais rien mangé pour avoir le ventre le plus plat possible. Puis cette pose-là qui semble si spontanée, en fait, elle était très calculée, puis on a pris des centaines de clichés avant d'arriver à ça. Donc, elle avait envie...
C'est intéressant, l'aspect, ce qui s'est vraiment passé, par exemple.
Oui, c'est ça, c'est ça. Elle avait comme envie de dévoiler les coulisses derrière tout ça, puis de dire, ben c'est une construction sociale, tout ça, puis c'est pas la réalité. Puis je pense qu'elle a envie de parler peut-être aux jeunes femmes aussi, qui prennent ça vraiment pour du cash, qui ont l'impression que c'est vraiment la réalité de ces filles-là, puis qu'elles se révèlent le matin, puis qu'elles ont l'air de ça. Puis d'ailleurs, elle a profité de cette occasion pour... Elle a non seulement fermé ses comptes médias sociaux, mais elle a lancé un nouveau site web qui s'appelle Let's Be Game Changers. Donc, soyons des acteurs de changement. Puis, sur ce site-là, elle invite en fait les gens à voir au-delà de la simple beauté physique. Puis, elle essaie d'encourager d'autres valeurs et elle promouvoit, mettons, des contenus plus intéressants sur plein de sujets, entre autres le végétalisme. Alors, ça devient un peu space, son affaire. Et là où il y a beaucoup de...
Le végétalisme, ce n'est pas space.
pardon.
Mais son site est déjà en train de devenir un fourre-tout, c'est ce que tu as dit.
Oui, c'est que dans le sens que ça part d'un vrai constat qui est c'est une construction, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais après ça, elle en profite pour parler de bouffe puis de végétalisme. Donc, pour moi, ça devient un peu mélangeant tout ça, puis je comprends pas tout à fait son message.
Elle veut devenir une Gwynette pas maquillée, finalement.
C'est un bon résumé de la chose.
La Gwynette de la journée sans maquillage.
Oui,
mais moi, j'ai lu la nouvelle.
Envie d'en parler?
Ce qui m'achète avec la nouvelle, c'est plus le spin que les médias lui ont donné. C'est-à-dire, le sous-texte de ça, c'était « Voyez comment les médias sociaux, c'est rempli que de mauvais. Genre, voyez comme notre époque est rendue à quelque part de vraiment grave. » Qu'est-ce qu'elle faisait, la jeune fille? OK, je vais vous décrire quelque chose, vous me direz à quoi ça vous fait penser. Donc, c'est une femme qui gagnait sa vie en étant payée pour porter des vêtements, prendre des photos avec ces vêtements-là. Elle faisait des sessions de photos où elle pouvait avoir comme 100 photos avant d'avoir la bonne. Elle avait des problèmes d'anorexie. Tout était basé sur son image. Elle était mannequin, un métier qui existe depuis Moses de bout. J'ai l'impression que c'est quelque part entre quelqu'un qui dénonce un truc qu'on dénonce depuis, que le monde dénonce depuis une bonne centaine d'années, c'est-à-dire les mannequins ce qu'on vous montre des photos de mannequins, c'est des photos qui ne sont pas la réalité. Et quelqu'un qui, en plus, découvre qu'elle n'aime pas sa job, qui, en plus, a sa crise de début vingtaine de découvrir que le monde n'est pas exactement ce qu'on pense. Il y a plutôt un paquet d'affaires qui est mélangé dedans et je suis content qu'elle est sortie de ça si c'est quelque chose qui lui plaisait pas. Mais tout le spin média, voyez comment notre époque est abominable à cause des médias sociaux. C'est quelque chose dans lequel je n'embarque pas du tout parce que il y a beaucoup d'autres choses que ces affaires-là sur les médias sociaux. Mais les médias sociaux ne comportent aucune fille. C'est peut-être un peu triste, mon fil Instagram ne compte aucune fille en bikini.
Faut que tu changes de fil Instagram.
Je vais peut-être refaire mes abonnements, mais moi, c'est très tranquille. Et,
Ben, c'est sûr que, effectivement, l'étiquette, c'est la faute aux médias sociaux, arrive rapidement quand on a des situations comme ça. Mais il y a un point important là-dedans, je pense, c'est que cette réalité qui n'existait pas avant, qui est celle d'être présent comme ça sur des comptes Instagram ou autres, fait qu'il n'y a plus de barrière entre ta vie personnelle et professionnelle. Tu n'es plus juste mannequin pendant une séance photo ou un défilé, dans son cas. C'est dans les mannequins qui gagnent leur vie comme ça aujourd'hui, qui sont des stars d'Instagram, doivent se lever le matin et photographier leur déjeuner. Ça fait partie intégralement. Il n'y a plus de différence entre leur vie personnelle et professionnelle. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle en est venue un peu à avoir cette crise, finalement. Là.
Par contre, je trouve qu'on la juge durement dans les médias, et c'est là que peut-être ma pensée a rejoint un peu celle de Mathieu. C'est-à-dire que c'est quand même une jeune femme de 19 ans. Oui, c'est normal qu'elle soit confuse, puis qu'elle fasse des vidéos qui sont entre le narcissisme et la réflexion, peut-être pertinente jusqu'à une certaine mesure. Mais je trouve que les médias ont rapidement pointé le doigt vers « Ah, oh, mais là, c'est hypocrite, tout ça, puis elle est juste à la recherche de la célébrité, puis dans le fond, ça lui profite. » Peut-être.
Parce que c'est ce qu'on lui reproche.
Exactement. Il y a des gens qui disent qu'il y a juste un gros coup de marketing derrière tout ça, puis qu'elle essaie de devenir célèbre, puis de faire le tour des plateaux télé, ce qui est d'ailleurs en train d'arriver.
Oui, mais on ne sait jamais quand quelque chose va devenir viral. Tu ne peux pas faire une vidéo virale. Tu peux juste faire quelque chose, puis ça pogne, ça, tout le monde en parle. On aurait pu parler de son truc dans deux sites web et demi. Ça peut être sur ton petit look, puis un autre site, puis c'est tout. C'est presque un addon que ça soit devenu viral. On ne peut pas lui reprocher.
Qu'elle ait prévu ce coup de... Tout ce que tu dis, c'est que tu ne peux pas prévoir ça.
C'est impossible.
Mais je veux dire, elle ne pouvait pas non plus penser que ça serait anonyme. C'est-à-dire, puis elle ne faisait pas pour ça, parce qu'elle n'aurait pas fait une vidéo Instagram si elle voulait que ça demeure dans l'anonymat. Je pense que peut-être qu'elle avait effectivement cette intention de conscientiser des jeunes femmes à pensez-y comme il faut, parce qu'évidemment, tout ça se bâtit de façon, j'imagine, parfois un peu inconsciente. C'est que tu as un engrenage où tu commences à publier des photos de toi, tu commences à intégrer ça, ça prend des proportions, puis à un moment donné, tu te rends compte, tu te réveilles un beau matin, tu te rends compte que c'est pas ça la vie. Bon, c'est un peu ça le résumé de la situation. On a comme 10 ans de Facebook derrière la cravate. Instagram a atteint des niveaux qui est vraiment, évidemment, record, comme n'importe quoi qui n'existait pas il y a 5 ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va voir, je pense, beaucoup ces espèces de souhait de retour à de l'authenticité, comme une espèce de petit mouvement anti-bullshit qui est en train de poindre. Là, on en voit quand même...
Mais qu'est-ce qu'on mange avec cette nouvelle-là?
Oui, c'est ça. J'attends la recette.
On mange de faux fruits.
Mais on mange évidemment un smoothie au kale.
Ah, c'est tellement photogénique. On aurait dû y penser.
Mais c'est clair. Je vous propose la recette d'un smoothie au kale et vous allez le trouver sur chatelaine.com/balado.
Avec toutes les
hashtag kale, hashtag smoothie,
hashtag plénitude,
live, hashtag plénitude,
hashtag vive le végétalisme,
hashtag ton petit smoothie.
Merci Martina. Merci. Bon, sur cette note, on se dirige vers la minute culture. C'est le moment où on vous recommande un coup de cœur culturel. Et c'est un membre de l'équipe. Et là, aujourd'hui, on a avec nous Mylène Tremblay, qui est journaliste à Châtelaine. Bonjour, Mylène.
Bonjour, Christelle.
Tu voulais nous parler, toi, d'un film qui t'a beaucoup touchée.
Oui, il s'agit de... En fait, c'est que Fatima, c'est une coproduction France-Québec qui a été lancée ici au Festival du Nouveau Cinéma, qui a reçu un très bel accueil, d'ailleurs. Et c'est un film qui est vraiment très émouvant. C'est autour du thème de l'immigration, de l'intégration, et c'est un sujet très d'actualité.
Bien sûr.
Alors, brièvement, je vous raconte l'histoire. C'est celle de Fatima, une mère d'origine algérienne. Elle est dans la quarantaine. Elle élève seule ses deux filles dans une cité de Lyon. Donc, les cités, c'est les fameuses banlieues défavorisées des grandes villes françaises. Elle porte le voile, donc, et elle parle à peine français. Et elle fait des ménages. Elle travaille comme femme de ménage pour joindre les deux bouts et pour donner à ses filles toutes les chances, finalement, d'avoir des chances de réussir.
Meilleure situation qu'elle, oui, c'est ça.
Oui, tout à fait. Parce qu'elle, elle a compris, en fait, que la clé du succès, ça passe par l'instruction. Parce qu'elle, évidemment, ben, dans son bled, elle a dû quitter l'école très tôt. Donc, ces filles, elles sont nées en France. Elles sont nées en France et elles vivent à l'Occidental. Donc, Nesrine, qui est l'aînée, elle étudie pour devenir médecin. Alors, elle veut réussir justement pour gagner bien sa vie, ne pas faire comme sa mère, effectivement. Alors que la cadette, elle, Souad, c'est tout l'inverse. Elle sèche ses cours. Donc, elle travaille mal à l'école. Elle répond à ses professeurs. Elle parle mal à sa mère aussi. En fait, elle en veut à sa mère, elle a honte que sa mère fasse des ménages. Et puis, il y a une scène vraiment touchante où on la voit, où elle la traite de boniche. Elle dit « Moi, je veux pas faire comme toi. » Parce que sa mère lui dit « Si tu continues à travailler mal à l'école, ben tu vas finir par faire des ménages. » Elle dit « Il n'y en a pas question, je préférerais voler que de jouer à la boniche comme toi et de faire la servante. » Et donc, c'est le plus touchant aussi, c'est que Fatima, elle est consciente de tout ça et elle comprend très bien la rage de sa fille. Elle réfléchit aussi sur la barrière linguistique et générationnelle, qui la sépare de ses filles.
Parce que ses filles parlent pas très bien.
Ses filles parlent très bien le français. Elle parle l'arabe. Elle parle à peine. Elle parle à peine le français. Et c'est très difficile pour elle parce que elle se sent invisible aux yeux de la société, comme elle peut pas communiquer. Elle travaille du matin au soir, rentre chez elle très tard et il y a rien qui est fait chez elle alors qu'elle a fait le ménage et elle s'est occupée de tout le monde ailleurs. Et donc ça peut plus continuer comme ça. Elle tombe malade. En fait, elle a un bras qui l'a fait très très souffrir. Il faut savoir que ce film-là a été inspiré d'une histoire vraie.
Ah, c'était ma question, justement. Je me demandais si c'était une fiction. Oui.
C'est celle de Fatima El Ayoubi. Les écrits sont parus sous le titre « Prière à la lune ». Alors, moi, je recommande ce film pour comprendre, en fait, les défis qui sont vécus au quotidien par les immigrants. Toute leur volonté de s'intégrer à
cette impression d'être invisible, ça me frappait, cette
phrase. Oui, tout à fait. Cette impression d'être invisible, de vivre dans l'ombre parce qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas être en contact avec les autres ou très difficilement. Et donc, toute cette volonté aussi de s'intégrer et les efforts surhumains que ces femmes, toutes les Fatima du monde, en fait, déploient pour permettre à leurs enfants d'accéder à une vie meilleure. Hein, leur donne toutes les chances de se saigner à blanc, justement, pour que leurs filles ou leurs enfants, en tout cas, réussissent et aient de bonnes études, parce que ça passe vraiment par là. Je le recommande aussi pour cette très belle vision d'intégration. C'est une belle leçon, en fait, d'intégration qui contraste beaucoup avec le discours xénophobe qu'on entend un peu partout là, à travers la planète, surtout dans le contexte actuel des migrants et tout ça. Alors, le film Fatima va prendre l'affiche ici, le 27 novembre.
Excellent, c'est à voir. Merci beaucoup, Mylène.
Merci.
Et c'est une comédie, je crois.
Ah oui, bien
c'est
sûr.
C'est burlesque. Est-ce que c'est 3D? Parce que j'y vais pas. Mathieu Charlebois?
Oui.
C'est qui, Félix Diotte?
Félix Diotte, quelqu'un connaît Félix Diotte autour de la table?
Non. Grillon.
Et pourtant, ce n'est pas un petit nouveau. Il roule depuis 1997. Il a été musicien pour Pierre Lapointe pendant la tournée Punk'd. Mais avant ça, il a aussi été dans Chinatown. Non, ça ne vous dit rien non plus. Le groupe a été en nomination à la disque deux fois. Bref, c'est un gars qui roule sa bosse depuis un petit bout, mais c'est son premier album solo qui vient de sortir, qui s'appelle Félix Diotte. Pas très original.
Mais on ne se trompe pas.
Ça permet d'apprendre son nom.
C'est ça.
Donc, c'est un album qui propose... son premier album solo, mais dans lequel il convoque à sa table, il invite à sa table les 60 dernières années de chansons francophones. C'est un registre pop qui va de Gainsbourg à Malajub en passant par Darampe et Indochine.
Wow.
Ça reste super cohérent, tout au long qu'on écoute l'album, on fait « Ah ouais, c'est un peu comme... Ah ouais, c'est un peu comme... » Mais c'est aussi « Ah oui, un peu comme Félix Diotte ». C'est de la pop super bien fait. Il y a derrière lui une compagnie de disques qui semble vraiment y croire. Et ils ont raison d'y croire. C'est un disque intelligent, accrocheur, c'est pop, c'est bien fait. Comme je disais, c'est un disque cohérent. Mais comme je disais aussi, ça pige dans une pile d'influence assez grosse. Alors, si vous aimez quelque chose de la chanson francophone des 60 dernières années, essayez-le, il y a des chances que vous trouviez quelque chose là-dedans qui pourrait vous aimer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce disque-là. On va entendre la chanson Avalanche en sortant.
Excellent.
Voilà.
Merci pour cette nouvelle découverte. C'est toujours bien plaisant. J'ai bien aimé ta façon d'aimer Chopin quand on n'aime pas Chopin de la dernière balado. Là, on va découvrir Félix Diotte. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour cette nouvelle balado Châtelaine. À bientôt.